Vous écoutez On lit pour vous.
Notre collaboration avec le Protecteur du citoyen. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Signalement. En novembre 2023, l'équipe de défense des droits de Mémo Québec a fait un signalement au Protecteur du citoyen concernant la fréquence élevée de personnes lésées médulaires, PLM, souffrant de plaies de pression qui tardaient à guérir depuis plusieurs années. Le plus alarmant était que plusieurs de ces plaies s'étaient développées lors d'un séjour à l'hôpital ou malgré le suivi de préposés à domicile. Nous avons évoqué de possibles négligences dans la prévention des lésions de pression pour les PLM, ainsi que des lacunes dans la qualité des soins de plaies. Collaboration. À partir de témoignages et d'informations que nous lui avons transmises, le Protecteur a mené une enquête sur les soins de plaies effectués dans le cadre du soutien et des soins à domicile du CIUS de la Capitale-Nationale et dans les 6 hôpitaux du Centre hospitalier universitaire de Québec. 2 rapports qui ont du poids. Le 7 octobre 2024, un premier rapport, Intervention au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Québec, confirme que l'offre de services n'est pas suffisante et adaptée à la réalité des PLM, contribuant à retarder la guérison de leurs plaies sur plusieurs années et à amener des hospitalisations et des chirurgies. 6 recommandations ont été formulées concernant la trajectoire de soins de plaies et son application, l'évaluation clinique complète et le recours aux autres professionnels de la santé, l'accès à un service de garde de changement de culotte et de réfection du pansement avec l'évaluation des délais de réponse. 2 demandes de suivi ont été adressées visant le déploiement de formations et d'outils de prévention de ces plaies, ainsi que la mise en place d'un répertoire de PLM qui en souffre. Le 2 décembre 2024, dans un autre rapport, Intervention au CHU de Québec, Université Laval, il est constaté que les mesures préventives liées à l'apparition des plaies de pression lors d'une courte hospitalisation ou d'une visite à l'urgence ne seraient pas suffisantes. 2 recommandations concernant la diffusion des mesures de prévention des plaies et l'utilisation de l'échelle de Braden pour évaluer les risques ont été émises. De plus, 4 suivis ont été demandés. L'analyse du développement des plaies de la clientèle admise au centre d'expertise pour blessés médulaires, la diffusion du soutien de l'équipe de traumatologie lors de l'admission d'une PLM dans les établissements du CHU de Québec, un rappel pour l'utilisation de l'échelle de Braden et la disponibilité de matériel préventif en tout temps. 1 an plus tard, des avancées et des piétinements. Du côté des hôpitaux du CHU de Québec, depuis la sortie de ces rapports, nous avons reçu des témoignages de quelques membres qui, lors de leur passage à l'urgence ou lors d'une hospitalisation, ont eu accès à un matelas préventif dans des délais très acceptables. Eric nous a raconté « Ça n'a pas pris de temps pour avoir un matelas thérapeutique. » Du côté des services à domicile du CIUS-CN, il semble que des améliorations se font attendre. Par exemple, une de nos membres nous a raconté que, lorsqu'une infirmière était venue changer son pansement, celui qu'elle avait choisi contenait des bandes adhésives qui déchiraient la peau au pourtour de sa plaie. L'infirmière lui disait qu'il y avait des pansements plus performants, mais qu'elle ne les avait pas apportés parce qu'ils étaient un peu trop chers. Un levier pour améliorer les soins dans toutes les régions. Ces rapports soutiennent nos démarches auprès des élus et des décideurs du système de la santé afin de dénoncer des lacunes dans d'autres établissements. Nous réclamons que la totalité des recommandations et suivis adressés aux établissements de la capitale nationale soient mis en œuvre dans l'ensemble des régions du Québec. C'était notre collaboration avec le Protecteur du citoyen. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Violence. Un texte de Nathalie Collard, paru le 23 avril 2026 dans la presse. Quel est le mot qui a attiré notre attention dans l'actualité cette semaine? Que révèle-t-il? Notre chroniqueuse se penche sur la question. Les bourgeons éclosent, les oiseaux chantent, l'air se réchauffe tranquillement, mais l'arrivée du printemps n'adoucit en rien l'actualité des derniers jours. Le fond de l'air est violent. Donald Trump donne le ton avec sa guerre contre l'Iran et ses attaques intempestives contre tous ceux et celles qui ne pensent pas comme lui. Son gouvernement est en train d'institutionnaliser une forme de violence qui ne peut que nous atteindre. Le danger serait de s'habituer à cette agressivité latente au point de la relativiser. Comme mardi 21 avril 2026, par exemple, pendant le match opposant le Canadien de Montréal au Lightning de Tampa, match de hockey ou match de boxe? Les arbitres ne savaient plus où donner de la tête tellement les hockeyeurs avaient la mèche courte et le poing leste. Pendant qu'ils laissaient tomber les gants sur la glace, les spectateurs faisaient du bruit pour les encourager. « Du pain et des jeux », disaient les Romains à l'époque des combats de gladiateurs. On est en droit de se questionner. En quoi une telle brutalité devrait-elle nous divertir? Cette violence n'est pas anodine. Elle contribue à nous immuniser, à faire de nous une société qui souffre à l'occasion de saturation empathique, comme face au nombre effarant de féminicides, par exemple. Depuis le 1er janvier 2026, toutes les deux semaines en moyenne, une femme est assassinée. 9 victimes de féminicides présumés en moins de 4 mois. Souffrons-nous de fatigue de compassion? Sinon, comment expliquer notre mollesse à réagir? Les féminicides font la manchette régulièrement. Les gens s'indignent quelques minutes, crient plus jamais, et puis plus rien. Notre cerveau s'est habitué à voir passer ce genre de nouvelles. Québec solidaire et sa co-porte-parole, Ruba Gazal, se sont emparés du dossier et font circuler une lettre réclamant l'adoption de 3 mesures pour mieux protéger les femmes. Jusqu'ici, elle a recueilli au moins 600 signatures. C'est très bien. Mais ce serait encore mieux si la discussion autour de la violence faite aux femmes sortait des chambres d'écho habituelles. Ce serait bien que la conversation devienne nationale, qu'elle touche tout le monde, pas seulement celles et ceux qui sont sensibilisés depuis toujours à la condition des femmes. Pour l'instant, C'est comme si une partie de la population ne se sentait pas concernée. Comme si la cause de la violence faite aux femmes reposait exclusivement sur les femmes, alourdissant leur charge mentale déjà imposante. Il aura fallu qu'une femme accède au plus haut poste de l'État pour que cette violence devienne une priorité pour le gouvernement. Peut-être faudrait-il, pour sensibiliser davantage, utiliser un langage plus universel, celui de l'argent. La violence conjugale a des impacts au-delà des coûts reçus par une femme. Elle se traduit en pertes financières évaluées à plusieurs milliards de dollars. Quand on additionne les frais judiciaires, les frais de santé et de services sociaux, ainsi que l'absentéisme et la baisse de productivité, on réalise que la facture est salée. Et qu'investir davantage dans la prévention et les ressources pour les femmes se traduirait en économies de plusieurs centaines de millions de dollars. La violence conjugale n'est pas seulement un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu économique. Enfin, on ne peut pas parler de violence sans parler de ce poupon de 2 mois qui a subi 50 fractures. Son père a plaidé coupable, mardi, à un chef d'accusation de voies de fait causant des blessures pour lui avoir brisé le fémur en changeant sa couche. L'enfant a été victime d'épisodes répétés de traumatisme infligé, a déclaré une médecin. La preuve n'a pas permis de déterminer la cause des 49 autres fractures. Cet homme a de la chance, sa réputation est sauve. Son nom est protégé par la loi qui interdit la divulgation de l'identité de l'enfant. Il s'en tire avec une peine de 18 mois qu'il purgera à la maison. On appelle ça une peine Netflix. Pourquoi une telle clémence pour un homme qui a abusé de sa force et a blessé sa fille, un bébé naissant sans défense? On nous explique que c'est parce qu'il a reconnu sa culpabilité, parce que c'était un père aimant, selon son avocat, qui a aussi plaidé qu'on était face à un homme, membre d'un ordre professionnel, un acquis pour la société. Semble-t-il. Parmi les autres arguments avancés par l'avocat de la défense, le geste du père était ponctuel, impulsif. C'était un geste de frustration. Pourquoi de frustration? Parce que le père venait d'être poussé en dehors du lit par sa conjointe, a écrit mon collègue Louis-Samuel Perron citant l'avocat Maître Kevin Morras. Expliquer le contexte de la brutalité en évoquant l'impulsivité et la frustration, c'est une façon souvent utilisée pour relativiser la violence. Et ça aussi, c'est violent. C'était « Violence », un texte de Nathalie Collard, paru le 23 avril 2026 dans La Presse.
Peut-on prévenir ou inverser l'apparition des cheveux gris? Un texte de Simar Badjaij du New York Times paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. Le grisonnement, bien qu'il soit un phénomène aussi universel, demeure étrangement mystérieux. Chaque cheveu naît presque translucide et sa couleur est déterminée par la mélanine, essentiellement une poussière de pigments. Si elle est densément concentrée, les cheveux seront foncés. Dans le cas contraire, ils paraissent blonds. Avec le temps, les cellules productrices de pigments présentes dans chaque follicule pileux ont tendance à ralentir ou à s'éteindre, rendant les cheveux gris, explique Desmond Tobin, directeur du Charles Institute of Dermatology à l'University College Dublin, en Irlande. Ces cheveux ont tendance à être plus rigides et plus difficiles à coiffer et poussent 10% plus vite que les cheveux pigmentés. Certaines personnes les acceptent comme une composante du vieillissement, d'autres les voient comme une nuisance à teindre, à arracher ou à dissimuler. mais les scientifiques ne savent pas encore précisément ce qui déclenche le grisonnement ni dans quelle mesure nous pouvons l'influencer. Certaines personnes commencent à grisonner dans la vingtaine, tandis que d'autres conservent leur couleur naturelle jusqu'à leurs 80 ans. Bien que le processus semble en grande partie irréversible, les chercheurs constatent que la couleur peut parfois revenir, par plaques et sous forme de racines plus foncées. Pour l'heure, il n'existe pas de solution miracle pour prévenir ou pour inverser le grisonnement. Mais des experts s'efforcent d'éclaircir la question et de mettre au point des traitements. Ce que les scientifiques savent jusqu'à présent. Nos cheveux ne grisonnent pas tous en même temps, ce qui explique pourquoi on peut remarquer quelques mèches argentées isolées avant d'entrer dans une phase poivre et sel. Certains cheveux peuvent même s'éclaircir, puis se foncer à nouveau. Chaque follicule est indépendant. Il contient ses propres cellules productrices de pigments, appelées mélanocytes, ainsi qu'un réservoir de cellules souches de remplacement. En vieillissant, ces cellules accumulent naturellement des dommages, causés par exemple par le stress ou l'usure cellulaire. Le grisonnement débute généralement lorsque les mélanocytes d'un follicule particulier sont compromis, mais il devient permanent lorsque le réservoir de cellules souches est épuisé, explique Emi Nishimura, professeur spécialisé dans le vieillissement et la régénération à l'Université de Tokyo. Des recherches donnent à penser que si le premier phénomène survient sans le second, le grisonnement peut être inversé. Dans une petite étude publiée en 2021, des scientifiques ont collecté des cheveux chez des personnes qui avaient commencé à grisonner et ont observé des bandes distinctes, foncées et blanches. Comme un cheveu pousse environ 1 cm par mois, ces bandes offrent une ligne du temps. Les chercheurs ont donc demandé aux participants de noter leurs expériences stressantes au cours de l'année écoulée. Les périodes de stress plus élevées correspondaient aux bandes plus claires, tandis que les périodes de moindre stress coïncidaient avec des bandes où la couleur était revenue. Autrement dit, la réduction du niveau de stress semblait inverser ou ralentir le grisonnement. Certaines personnes aux cheveux gris ont également connu une repigmentation spontanée par plaques après avoir reçu certains types de chimiothérapie, de radiothérapie ou d'immunothérapie. Les experts soupçonnent que, dans ces cas rares, les traitements contre le cancer pourraient inciter des cellules souches dormantes à reconstruire des mélanocytes fonctionnels. Ces recherches semblent indiquer que le grisonnement n'est pas un processus entièrement linéaire et qu'il existe une fenêtre d'opportunité durant laquelle la perte de pigments peut être inversée, selon le Dr Ralph Paus, dermatologue à l'Université de Miami. La durée pendant laquelle cette fenêtre reste ouverte et ce qui pourrait réactiver les cellules souches de façon sécuritaire demeure inconnue. Que peut-on faire contre les cheveux gris? Le grisonnement est en grande partie génétique, rappelle la docteure Jessica Chiu, dermatologue au UC Irvine Health en Californie, si bien que vos parents et grands-parents constituent le meilleur indicateur pour le vôtre. Les chercheurs ont également établi que le grisonnement débute généralement au milieu de la trentaine chez les personnes blanches, à la fin de la trentaine chez les personnes asiatiques et au milieu de la quarantaine chez les personnes noires. Le mode de vie peut également avoir une incidence sur le grisonnement. Les données les plus probantes plaident en faveur de l'abandon du tabac et de la réduction du stress. Dormir suffisamment et adopter une alimentation saine, riche en antioxydants, pourrait également limiter les dommages causés aux cellules pigmentaires, souligne la Dr Chiu, bien que les preuves soient plus indirectes à cet égard. Un grisonnement prématuré a également été associé à de faibles niveaux de fer et de vitamine B12, mais aux États-Unis, les carences suffisamment graves pour perturber la pigmentation des cheveux sont rares, précise le Dr Tobin, et rien ne prouve que des suppléments aident à lutter contre le grisonnement. Méfiez-vous des suppléments anti-gris en général, conseille la docteure Chiou, car ils sont souvent vendus sur la base de promesses plutôt que de preuves. Même s'ils contiennent un ingrédient potentiellement utile, rien ne démontre que la prise d'une pilule ou l'application d'une crème permet d'atteindre les cellules pigmentaires situées au plus profond des follicules pileux. Bien qu'il n'existe pas de traitement médical contre les cheveux gris, il est conseillé de consulter un médecin en cas de grisonnement soudain ou précoce, car une petite proportion des cas est liée à des médicaments sur ordonnance ou à des maladies et pourrait être réversible. Certains anticonvulsivants, antipaludéens, rétinoïdes oraux et médicaments contre la spasticité musculaire ont notamment été associés au grisonnement. De nombreux médicaments contre le cancer induisent également une perte de pigment, malgré les cas rares de repigmentation mentionnés plus haut. Les médecins peuvent aussi distinguer le grisonnement lié à l'âge des affections qui en sont la cause. Les troubles thyroïdiens et autres déséquilibres hormonaux ont été associés à un grisonnement précoce, tout comme les maladies auto-immunes qui ciblent les follicules pileux, comme le vitiligo et la pelade. Un traitement peut limiter la perte de pigments supplémentaires et permettre parfois un retour de la couleur. Pour la plupart des gens, il n'y a pas grand-chose à faire pour prévenir les cheveux gris, mais une accumulation de petits changements peut aider. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est simplement d'adopter un mode de vie sain, résume la docteure Chiou. C'était « Peut-on prévenir ou inverser l'apparition des cheveux gris ?» un texte de Simar Badjaj du New York Times paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.
Montréal sur les traces de ses bernaches. Un texte de Vincent Larrain paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Montréalais, à vos jumelles. Après des années à effaroucher les bernaches qui prolifèrent en ville, Montréal veut maintenant les suivre pour mieux comprendre leur routine et compte impliquer les citoyens dans l'opération. Ils dérangent, c'est bien documenté. Mais où vont ces oiseaux une fois qu'on les chasse hors de notre vue? C'est ce que tentera de déterminer la ville grâce à un projet pilote lancé ce printemps. Deux îles de la rivière des Prairies situées dans des parcs nature de la ville ont été ciblées comme des endroits à surveiller. Une cinquantaine de nids s'y trouvent habituellement. On pense que la majorité des oiseaux qui fréquentent tous ces parcs où on a des enjeux de cohabitation dans le nord de la ville niche sur ces deux îles, indique Frédéric Bussière, biologiste au service des grands parcs de la ville de Montréal. Une vingtaine de bernaches y seront marquées dans les prochaines semaines. Le printemps est un moment propice pour ce genre d'opération, puisque les volatiles se retrouvent au nid pour couver leurs œufs et ne sont pas trop nerveux, indique celui qui chapeaute le projet. Parmi les objectifs de ce projet, évaluer l'efficacité des techniques d'effarouchement employées depuis plusieurs années par différents arrondissements. Bref, où vont les bernaches en fuite? Est-ce qu'elles vont quitter longtemps et revenir après? Ou juste aller dans le parc à côté, ou encore de l'autre côté, à Laval, soulève Frédéric Bussière. Impliquer les citoyens. Au cou, les bernaches retenues porteront un collier noir avec un numéro en blanc. Des bracelets bleus avec une inscription blanche pourront aussi être aperçus à leurs chevilles. Et c'est là que le citoyen montréalais sera mis à contribution. Pour générer de la donnée, il faut pouvoir dire « J'ai vu la bernache numéro 14 dans tel parc, tel jour, pour suivre son déplacement », résume Frédéric Bussière. La ville mettra ainsi à la disposition des citoyens un formulaire d'observation en ligne, tandis que des affiches explicatives seront apposées dans les parcs visés. un système de télémétrie sera déployé en parallèle pour suivre les oiseaux à distance. Mais cette technologie a ses limites, indique Frédéric Bussière. La ville espère pouvoir également mieux évaluer si ces volatiles se multiplient bel et bien à Montréal. Une impression que partagent de nombreux citoyens, mais qui n'est pas appuyée par des données populationnelles précises. Des relevés de nids effectués depuis 3 ans par les employés municipaux donnent une idée approximative. Or, différents facteurs peuvent influencer les résultats de ces observations, par exemple le printemps tardif de cette année. Difficile, donc, d'établir une tendance générale. C'est pire, c'est mieux. J'ai de la misère à le quantifier, indique Frédéric Bussière. L'effarouchement continuera. Il donne en exemple les 2 îles où seront menées les opérations de marquage. Dans l'une, environ 70 nids ont été recensés, alors qu'on en retrouvait auparavant 50. Dans l'autre, on a vraiment de mauvais résultats, soit très peu de nids, explique le biologiste. En matière de cohabitation, la sensibilisation du public sur l'importance de ne pas nourrir les animaux et des mesures de contrôle comme des filets semblent porter leurs fruits, souligne-t-il. Dans les zones où je n'ai pas besoin de gazon bien tondu, bien laisser pousser la végétation plus haute, ça rend l'endroit moins intéressant pour les bernaches qui cherchent les jeunes pousses pour s'alimenter, explique Frédéric Bussière. Outre leur fiente, qui parsèment les parcs en bordure de points d'eau partout à Montréal, la présence des bernaches fait craindre pour les collisions avec les cyclistes. Certaines d'entre elles, plus agressives, peuvent également donner de bonnes frousses aux résidents. À long terme, la ville parie sur le réaménagement de ses parcs pour les rendre moins attrayants pour les volatiles qui apprécient les espaces gazonnés à proximité de cours d'eau. En attendant, la municipalité opte plutôt pour leur faire peur, à l'aide d'oiseaux de proie, de chiens ou de petits appareils téléguidés. L'arrondissement d'Ontic-Cartierville, où l'on retrouve une grande concentration de bernaches, vient d'accorder un contrat de 85 000 $ dans ce but. Or, peu importe les résultats du projet de marquage, cette méthode conservera son utilité, estime le biologiste Frédéric Bussière. Si elles quittent pour une demi-journée, elles n'ont toujours bien pas été là pour une demi-journée, souligne-t-il. C'était « Montréal sur les traces de ses bernaches », un texte de Vincent Larrain paru le 29 avril 2026 dans La Presse.